Bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait un bonjour classique ou un bonjour pas classique?
On se pose toujours une question de comment on fait, j'ai remarqué. Ça, c'est notre plus grande question, comment on fait?
Du coup, est-ce qu'on
qu'est-ce qu'on fait, comment?
Est-ce qu'on se préoccupe pas, du coup?
C'est-à-dire, on se préoccupe pas ou je fais un bonjour comme tous les jours?
Ouais, je pense.
Ok. Bon, bah, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hicham. Bonjour Hicham.
Bonjour.
Bonjour Jody.
Bonjour.
Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Bonjour Léa.
Bonjour.
Bonjour Marouane.
Bonjour.
Aujourd'hui, l'émission est imaginée et fabriquée par des moins de 20 ans. Pourquoi on fait ça, Jody?
Premièrement, on fait ça pour donner notre avis, notre point de vue de jeune, et qui est un point de vue différent de ce qu'on peut voir sur des sujets de la société. On fait surtout ça car pour une fois, on nous demande notre avis. Pour une fois, on peut donner notre avis. Ce qui va nous réunir une fois par mois ici, c'est l'envie de parler et l'envie de se faire entendre. Et surtout, et enfin, ça nous permet de faire des travaux collectifs. Ça nous permet de continuer un projet qu'on a commencé tous ensemble il y a un an, donc c'est-à-dire se revoir et de rencontrer de nouvelles personnes.
Dans toutes les musiques, je trouvais quelque chose qui faisait que j'aimais ou qui faisait que je me découvrais dedans. Et quand j'écoutais, je suis toujours dans mon monde, je suis toujours... Je me sens trop bien, en fait. Quand j'écoute, je suis toute seule. Même quand je suis avec du monde, je suis toute seule. Je me sens pas importante, mais je sens que je suis là et que ça tourne autour de moi parce que c'est moi qui décide, c'est moi qui décide ce que j'écoute. Et je fais ce que j'ai envie, en fait. De me sentir vivante dans un monde vivant, oui.
Se sentir vivant dans un monde vivant, vous imaginez bien qu'il n'a pas fallu beaucoup plus que cette phrase pour nous donner envie de recommencer. L'année dernière, Jody l'a dit à l'instant à plusieurs reprises, nous avons fait de la radio avec des lycéens. Pour certains, ils étaient en terminale et promettaient le bac en poche de s'éparpiller loin de nos studios installés dans leur CDI. Alors nous avons eu envie d'un rendez-vous régulier, plus à l'école mais à la radio, où l'émission ne serait plus notre émission, leur émission, imaginée par eux et principalement animée par eux. Car entre de nombreux textos échangés, quelques mails et nos réunions préparatoires, leur ambition était claire. On ne veut plus être tes invités, Marie, on veut poser les questions. Alors voilà, vous entrez dans leur émission. On reste là, pas loin. Bienvenue à tous. En fin d'heure, Nafissatou partagera avec vous deux de ses découvertes musicales du moment. Nafissatou, un peu d'eau à la bouche, qu'est-ce qu'on écoutera tout à l'heure?
Alors, je vais vous parler d'un artiste plutôt soul, Joss Breaking 3, et d'un autre artiste plutôt hip-hop, André 3000.
Âme qui danse et musique comme compagnon vers 14h50. Cette émission mensuelle se découpera toujours en deux zones, en deux grandes questions de société. Comme le disait tout à l'heure Jody, l'idée est de pouvoir parler de tout ce dont les autres parlent, mais autrement. Jérôme, c'est toi qui as pensé au premier sujet. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit?
Alors, j'ai choisi le sexisme dans la rue, parce que c'est un sujet qui touche toutes les femmes, peu importe où elles sont, peu importe leur âge, leur classe sociale, etc. Par exemple, dans le métro, des petits bruits pour nous interpeller, ou au feu rouge, des hommes criant certains noms pour nous interpeller et savoir notre numéro.
Et d'ailleurs, dans le mail que tu nous avais envoyé, tu parlais même de harcèlement ou de harcèlement sexiste dans la rue. Il se trouve qu'on a posé la question à Héloïse Duchet, qu'on a invitée pour discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre fondateur de l'association Stop Harcèlement de rue. Peut-être on commence par parler de cette association.
J'ai monté avec des amis. Au début, on n'était pas beaucoup. Il y a 2 ans et demi maintenant, un collectif qui est devenu une association qui s'appelle Stop Harcèlement de rue, où en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait une dénonciation de ce phénomène qui était assez récente, relativement récente, qui avait 2-3 ans, et qui se faisait sur les réseaux sociaux en majorité et sur Internet. Et on s'est dit qu'on allait faire descendre cette dénonciation dans la rue parce que c'était là que ça avait lieu et qu'on était persuadés qu'il y avait des choses qui pouvaient être faites. On pensait aussi que cette forme de sexisme qui s'exprime dans la rue, c'est le début d'une violence. C'est une violence et c'est le début d'un continuum de violence qui va jusqu'au meurtre. On sait que les femmes meurent plus, peuvent mourir de violence. Et donc, on pensait que c'était une bonne chose de s'attaquer à ce phénomène bien ancré dans nos mentalités, parce que ça nous permettait justement de changer nos mentalités dans ce qu'elles avaient de plus ancré. Et donc, par là, on pouvait agir sur plein d'autres aspects du sexisme.
Et pour vous, le harcèlement dans la rue, c'est quoi ?
Alors, ben, je pense que vous l'avez, vous dites vous-même que vous l'avez expérimenté, hein. C'est tous ces moments où un étranger va rentrer dans notre sphère d'intimité sans que on lui en ait donné l'autorisation, voire alors qu'on a exprimé, que ce soit par notre gestuelle, notre regard ou même des mots, notre refus qu'il le fasse. Et cet inconnu rentre dans notre intimité en raison de notre genre, de notre orientation sexuelle ou de notre sexe. Donc ça peut aller du simple regard. Il y a certains regards qui sont des regards extrêmement déplacés qui heurtent notre intimité, jusqu'à l'agression que je peux pas qualifier de harcèlement de rue puisqu'il y a une définition juridique, hein, et que donc à partir du moment où on est touché sur nos parties sexuées ou même qu'on est frappé, quoi.
Alors peut-être, puisque le but de l'association, c'est d'agir contre, est-ce qu'on peut détailler par exemple les actions de cette association-là ?
Alors, on avait commencé par faire des happenings, qui étaient ce qu'on appelait des zones sans relou. Donc on avait décidé, avec un débat qu'il y avait eu autour, mais de dire que bon, le harceleur, c'était celui que nous, entre filles, moi j'ai plus de 30 ans, donc moi j'utilisais déjà ce mot-là, donc ça faisait quand même beaucoup de filles et de femmes en France, l'appelait le relou. Ce modo, elle disait je me suis encore fait emmerder par un relou. Elles n'allaient pas dire oh là là, un harceleur m'a adressé la parole alors que je ne lui avais pas demandé. Et donc, on a dit, voilà, on va utiliser ce mot générique avec tous les problèmes qu'il peut poser et on va créer des zones où on va dire qu'il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas en vrai. Ça veut dire qu'on va mettre en place des actions. Donc, on distribuait des tracts. Et c'est ce qu'on fait encore. On fait dans le métro aussi. On distribue des tracts. On fait de la sensibilisation dans cette zone-là, qui est en fait éphémère. Hein, où on dit, bah, c'est possible, en fait. Si les hommes qui sont là prennent conscience que non, ils peuvent se comporter normalement, et que les femmes qui sont là prennent conscience qu'elles n'ont pas à tout accepter, et que toutes les témoins sont attentifs aux interactions qui ont lieu, on peut avoir des espaces comme ça. Donc ça, c'était un peu le truc emblématique. On intervient aussi dans des lycées. On a mis en place des actions et dans le métro qui ont permis à ce que le gouvernement s'engage un petit peu par un plan national. Et on continue à récolter des témoignages et à aussi développer une réflexion sur la question.
Et tout simplement, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que ça marche ? Enfin, est-ce qu'on a des statistiques qui montrent que justement ça s'est amélioré ?
En fait, on n'a pas de statistiques de départ. Il n'y a pas de statistiques en France.
Sur les violences en tant que telles, ou sur les agressions, ou sur le harcèlement de rue ?
Sur le harcèlement de rue. Les chiffres qui font date sont une enquête de l'ANVEF, donc qui commençait à dater, hein, et puisqu'elle est 2002, et du coup, c'est difficile. Nous, on sait, grosso modo, que toutes les femmes vont l'expérimenter un jour ou l'autre. Il y a eu un petit peu des enquêtes, mais on n'a pas des chiffres qualitatifs assez forts. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on puisse aller jusqu'à dire que ça réduit dans la rue. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont conscience que c'est un problème et qui donc vont pouvoir petit à petit faire des trucs un peu vraiment tout bêtes, mais redresser les épaules, les ouvrir un petit peu, relever le menton quand on avance dans la rue, se savoir légitime à dire non ou à porter un regard qui dit stop, là tu t'arrêtes, tu vas pas plus loin dans ton regard, dans tes paroles, etc. Et donc ça on commence quand même à en voir les prémices par les discussions qu'on a et ce qu'on voit autour de nous. Et puis il y a quand même eu des engagements, hein, de l'État et des collectivités, même si c'est à la marge, hein. Te dire aujourd'hui que les choses ont changé pour les femmes quand elles descendent dans la rue, non. Dire qu'il y a quelque chose qui se passe, une petite étincelle qu'on doit encore entretenir, oui. Mais en réalité, il y a plein d'autres choses qui pourraient être faites, qui ne peuvent pas forcément être faites simplement par une association. Moi, je pense que sur la question des violences, mais de son continuum de manière complètement large, on pourrait, comme on l'a fait avec les violences routières, faire un grand plan national, et en 20 ans, c'est terminé. C'est terminé... les violences routières ne sont pas terminées. Mais on, par exemple, un truc tout bête, mais on a des chiffres tous les mois. Et si ça augmente, c'est pas bien.
Sur les accidents de la route et sur les morts sur la route.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait à ce moment-là? Je sais pas, mais si vous avez fait, mais vous, vous l'avez vécu au lycée, j'en sais rien. Mais moi, quand j'étais à l'école, on faisait...
La prévention.
On faisait de la prévention et donc on avait des petites voitures hein, ou des petits vélos. Et donc c'était le début où on avait décidé que c'était fini les violences routières. Je me souviens, moi quand j'étais petite, on pouvait pas, on mettait pas notre ceinture. Donc on s'est mis à mettre notre ceinture et tout ça. Mais c'est des toutes petites choses. Mais si un enfant de 4 ans, on lui explique à l'école que son corps c'est son corps. Et il n'y a pas besoin que lui dire c'est ton corps de fille ou ton corps de garçon. Ton corps c'est ton corps. Forcément, quand la fille aura 15 ans dans le métro, si on s'approche trop près, elle sera capable de venir de manière sereine.
Mon corps,
c'est mon corps, tu t'arrêtes là, quoi.
Du coup, vous avez utilisé le mot militante. Est-ce que il y a une... On se doute qu'il y a une majorité de femmes qui luttent contre le harcèlement de rue, mais est-ce qu'il y a aussi un bon nombre d'hommes qui ont pris conscience du harcèlement de rue et qui, du coup, luttent contre ça?
Alors nous, dans notre association, c'est une association qui est mixte. Et oui, en fait, moi, j'ai même été agréablement surprise au début parce que non seulement il y a des hommes qui sont venus, mais tous les hommes qui sont venus ne nous ont jamais dit comment est-ce qu'on devait faire les choses. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils sont force de proposition et tout ça. Mais à un moment, quand il y a une décision un peu politique sur un message politique ou je ne sais pas, par exemple, on va lancer un hashtag. C'est politique de lancer un hashtag. Le choix, ils mettent jamais leur veto, quoi. Mais ça se fait naturellement, je veux dire, il n'y a même pas eu de discussion. Et donc, on a vraiment beaucoup de chance pour ça.
Tout à l'heure, vous avez dit que l'État, il pouvait s'engager, mais qu'est-ce que l'État peut faire contre des hommes dans le métro, par exemple, qui vont venir dire à une fille « Ah, t'es trop mignonne » ou je sais pas quoi. Enfin, l'État, il va rien pouvoir faire concrètement. Bah,
par exemple, ce dont je vous parlais à l'école, hein, ça coûte de l'argent. En fait, nous, on y va avec nos petits bras, quoi. Mais pourquoi est-ce qu'on irait gratuitement sur nos heures parfois de travail? Parce que quand vous êtes au collège ou au lycée, nous, on est censé aussi être
au travail,
quoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'un État, à un moment, se dirait pas que c'est ça son projet de société, quoi? Son projet pour la société, c'est que des hommes et des femmes dans la rue se comportent à égalité. Moi, je pense qu'effectivement, le moment où les pouvoirs publics peuvent s'engager, il est plutôt dans des actions d'éducation, il est dans comment est-ce qu'il réfléchit à comment il construit les villes, quels équipements il met, où est-ce qu'il met des lumières, tout ça. C'est des choses qui sont quand même réfléchies, hein, c'est des choses qui existent, des réflexions qui existent déjà, hein, mais qui peuvent aller plus loin. Et puis des campagnes, quoi. Je reviens à ma sécurité routière, mais celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas.
C'est très fort.
C'est très fort, tout le monde la connaît, parce qu'elle est répétée toutes les heures, parfois.
Du coup, concrètement, votre action, c'est se réapproprier l'espace public pour les femmes. C'est se dire que maintenant, c'est plus un espace exclusivement, dans certains endroits, pour les hommes. C'est se dire que les femmes aussi ont le droit d'aller ici sans avoir peur de se faire agresser ou de se prendre des réflexions très déplacées.
C'est ça. C'est aussi, en fait, à partir de ce phénomène qu'on vit tous, enfin toutes, et qu'on peut expérimenter, et du coup qui peut nous dire « bah ouais, j'ai envie de m'engager », ou « oui, ça m'intéresse », ou « oui, j'aimerais bien que ça cesse », ouvrir aussi un débat qui effectivement va plus loin et qui est l'accès de l'espace public et semi-public, parce qu'on parle aussi des bars, des festivals, etc., par exemple, dans les festivals, il y a beaucoup d'agressions sexuelles et qui sont très peu dénoncées. Voilà, donc c'est effectivement complètement ça.
Mais vous disiez que l'État a peut-être pas les moyens de faire quelque chose de concret, mais on sait par exemple qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis dans la lutte contre la drogue ou le tabagisme chez les jeunes. Et pourquoi justement la lutte contre le harcèlement et le sexisme, c'est pas une priorité pour l'État en termes d'argent?
J'ai dû mal me faire comprendre. Je dis pas que l'État n'a pas les moyens de le faire. Je dis que l'État ne met pas les moyens pour le faire. Donc, pourquoi ça n'est pas une priorité? Parce que visiblement, force est de constater que ça n'est pas une priorité politique. Voilà, il y a un rapport qui est sorti là, il n'y a pas très longtemps, qui a été fait par la toute jeune fondation Femmes.
Des Femmes qui a été créée en mars 2016,
voilà.
C'est tout jeune,
ouais. Et avec le Haut Conseil à l'égalité, instance au Conseil à l'égalité qui est le seul Haut Conseil qui soit dirigé par une personne qui n'est pas payée pour cette tâche. et qui donc montre je donne cet exemple-là pour bien montrer à quel point
Ça n'est pas une priorité. Voilà,
ça n'est pas une priorité. On est à 0,0066% du budget de notre pays qui est alloué à la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Ce rapport, il pointe. Je vous parlais de la formation. Pour former une classe d'âge, ce rapport dit qu'il faut 5,1 millions d'euros une année. Si on veut former toute une classe d'âge, on prend toutes les terminales et on les forme, par exemple. C'est ce prix-là. Et ce prix-là correspond aux amendes sur une année que payent les partis politiques puisqu'ils ne respectent pas la parité. Alors, où va cet argent? Je ne sais pas, mais voilà une bonne utilisation, par exemple.
C'est un rapport qui s'appelle « Où va l'argent pour le droit des femmes ?» et qui fait vraiment des constats assez alarmants. Et qui, je sais, hier, quand on discutait de cette émission, Jérôme, tu disais, mais est-ce que une des explications qui serait pourquoi est-ce que ce n'est pas une priorité politique, tu te demandais, peut-être tu veux le dire à ma place, mais je ne sais pas si tu t'en souviens. Non, tu t'en souviens pas. Tu disais, est-ce que ça a à voir au fait qu'il y a un plus grand nombre d'hommes au pouvoir dans ce pays? Est-ce qu'on peut faire, me demandait hier Jérôme, est-ce qu'on peut faire une relation entre la classe politique principalement masculine et le fait que ce ne soit pas une priorité?
À ton avis?
Moi, je suis persuadée que oui, parce que il y a eu un exemple avec une femme qui portait une jupe à l'Élysée et qui s'est fait insulter de tous les noms.
Cécile Duflo qui s'est pris un harcèlement de rue à l'Assemblée nationale, ouais, parce qu'elle était en robe, ouais. Ouais. C'est un harcèlement de rue, bruit de cocotte, etc. Je pense que c'est une des explications, c'est d'ailleurs une des pistes qui est explorée dans ce rapport. En 1993, il n'y avait pas plus de femmes à l'Assemblée nationale élues qu'il y en avait en 1946. 1946, c'est la première fois qu'il y a eu des femmes élues à l'Assemblée nationale. Donc on a déjà, entre 1993 et aujourd'hui, fait un bond énorme. Mais voilà, ça prend du temps. Et le rapport à l'argent et les femmes, ce sont les bénévoles dans l'histoire. Et quand elles se mobilisent pour leurs propres droits, etc., ce sont des œuvres caritatives. Attention, il ne faut pas toucher à l'argent. L'argent, c'est du côté des hommes, c'est du côté du pouvoir et c'est du côté de l'espace public aussi.
Marwan, pour terminer peut-être.
De toute façon, on le voit très clairement que la répartition des métiers hommes-femmes, c'est clairement inégal. Par exemple, les deux femmes qui se baladent entre les centaines d'hommes au 440, à l'Élysée, le nombre de femmes qui est clairement inférieur aux hommes. Est-ce que vous pensez que si on introduit plus de femmes, pas forcément ni sans prendre en compte le fait que ce soit des femmes, mais sur leurs compétences, il y ait plus de moyens qui soient alloués à la lutte contre le harcèlement dans la rue?
Alors, contre le harcèlement dans la rue...
Ou même plus généralement pour les inégalités hommes-femmes.
Je pense que tout ça, c'est une question de changement des mentalités. Et que forcément, si on met plus de femmes aux commandes, on prise un tabou, qui est qu'elles seraient incapables d'occuper le pouvoir. Et donc, on commence à changer les mentalités. Donc, disons que c'est un continuum. Il n'y a pas forcément des liens de cause à effet aussi simples que ça. Parce que les choses bougent sur le harcèlement de rue, pendant que les choses bougent sur ça, pendant qu'il y a un mouvement de recul sur l'IVG en Pologne. Donc, forcément, ça donne des idées à des gens ici en France. Tout ça fluctue, pas de manière si simple. Mais oui, le mouvement de fond, il doit se faire du côté, effectivement, de plus de parité, de plus de délégation de compétences à des femmes, de lever le tabou de l'argent et de mettre des femmes dans l'espace public. Plus on met des femmes dans l'espace public, et l'espace politique est un espace public, et tous les espaces de pouvoir sont par excellence des espaces publics, plus on met de femmes dans ces espaces-là, plus elles sont légitimes à être dans tous les espaces publics.
Y compris la rue. Et à être tranquille dans cet espace public. Est-ce qu'il y a un petit rayon de soleil au milieu de tout ça? Est-ce que vous voyez une façon de regarder les années qui viennent de ce côté-là de manière positive, Héloïse Duchère?
Je pensais pas avoir été pessimiste.
Non, pas du tout. C'est juste qu'on ne décrit pas une situation qui est par ailleurs extrêmement optimiste non plus.
Mais moi, je suis tellement enthousiaste de militer en 2016. J'aurais pu militer dans les premières vagues féministes en 1880. Non, là, je milite en 2016. C'est-à-dire qu'on a déjà gagné des droits. Et on en a gagné beaucoup. Donc j'ai plein de place pour militer. Et donc oui, je suis vraiment très optimiste par plein de prises de conscience et par plein de nouveaux sujets. Le harcèlement de rue, c'était pas un sujet avant parce qu'on avait d'autres chats à fouetter. Non, je suis plutôt optimiste sur le changement des mentalités. Après, je pense pas que nos politiques suivent, mais chez les jeunes, les mentalités, elles changent. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. I'm going to have you trembling. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. Chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Yeah, back it, back it. Yeah, pull up to the bumper game with the signal. Cover me, cause I'm changing how to handle on it. My life, but I'm broke it. When I get to where I'm going, gonna have you saying it.
Eh, c'est quoi?
Ben, c'est le contrôle de SVT.
Y'a contrôle?
Ben oui, y'a contrôle.
Ben oui, y'a contrôle. Putain, mais pauvre fille, cette meuf. Vous savez qu'il y avait contrôle, vous?
Pas contrôle, c'est sûr.
Il y a contrôle? Putain, j'ai complètement oublié.
Vous êtes naze, hein, ça fait des semaines qu'il est prévu le contrôle.
Mais fais voir le truc, c'est sur quoi?
Bah, c'est pas maintenant que tu vas réviser.
Et voilà comment on va parler de tes révisions, Hicham, bonjour.
Bonjour.
On s'est dit que peut-être tu ne serais pas forcément toujours avec nous tous les mois dans cette version de votre émission, vous l'avez appelée notre émission. Par conséquent, on se dit qu'on allait de temps en temps te demander ce que tu révises, comment ça se passe. Alors peut-être, quand on t'a quitté l'année dernière, t'étais encore en terminale, maintenant t'es où?
Cette année, j'ai intégré une prépa, une CPGE, une prépa littéraire, donc Hippocagne. Donc ouais, ça, j'ai totalement changé de rythme scolaire. Hein. C'est toujours la même ligne directive, mais c'est autre chose, c'est le supérieur. Et c'est vrai que c'est un grand changement.
Alors ça change de quel point de vue? Toi tu dis que c'est la même ligne parce que tu étais en terminale littéraire, donc tu continues à faire beaucoup de littérature, mais quoi, tu travailles plus concrètement?
Concrètement ouais, j'ai découvert ce que c'était la fatigue vraiment en entrant en Hippocagne. C'est vrai que le rythme des cours c'est vraiment rigoureux, pareil pour les devoirs à rendre et pour les oraux et les DST qu'on a chaque semaine. On passe un petit peu au fait des bacs toutes les semaines et donc c'est une claque qu'on se mange au fait. Et après le bac, c'est sûr que on s'amusait un peu, mais là, c'est vraiment fini tout ça.
Et alors, comment est-ce que tu la gères, cette claque? Parce que tu dis que tu es fatiguée, mais j'imagine que tout de même, tu tiens la barre. Comment est-ce que tu gères la demande qui est beaucoup plus forte dans cette prépa littéraire?
Tout s'explique, je pense, avec la motivation et puis vraiment l'intérêt qu'on a pour une formation qu'on intègre. Je pense pas que sur toute la culture qu'on emmagasine, si ça nous intéresse pas, je pense qu'on peut pas tenir vraiment. Pour preuve, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent en cours. Donc je pense vraiment la motivation et puis la soif de savoir, c'est vraiment important.
Alors toi, ça fait un petit mois, bon, t'as pas encore abandonné, donc la motivation est encore au rendez-vous. Est-ce qu'il y a des choses qui, par exemple, dans ce mois-ci, ont été des révélations, vraiment des textes, des cours magistraux auxquels t'as assisté, des classes où tu t'es dit, je sais pourquoi je suis là?
Au-delà du fait du rythme, ce qui m'a marqué, ce serait peut-être les nouvelles matières qu'on faisait, qui changent vraiment du lycée. Je peux citer par exemple la culture antique. C'est quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire, étudier les mythes grecs, le fondement de Rome, etc. Donc vraiment, ouais, c'est intéressant. Après, c'est beaucoup plus soutenu, comme par exemple pour le latin. J'ai jamais fait de latin. Je me retrouve avec 5 heures de latin par semaine.
Donc, ça change.
Voilà. Mais après, c'est vraiment la rigueur.
Et alors, est-ce que ça veut dire, parce que on a eu l'occasion à cette antenne de parler plusieurs fois avec toi de la lecture, est-ce que tu lis plus que l'année dernière?
Forcément, ouais. Au-delà du fait de mes lectures personnelles, j'ai beaucoup de lectures à faire pour les cours et de relectures et donc j'ai beaucoup de choses à lire, ouais.
On va de temps en temps te passer des petits coups de fil pour savoir justement qu'est-ce que tu as à lire. Mais ces temps-ci, qu'est-ce que tu lis et qui te captive?
En ce moment, ce que je lis, c'est une relecture. C'est La Princesse de Clèves de Madame de Lafayette. Mais c'est parce que justement, je l'étudie assez linéairement. Donc, je suis obligé de le relire. Mais sinon, on lit un peu de tout, vraiment.
Qu'est-ce que ça donne d'étudier linéairement, c'est pas facile à dire, La Princesse de Clèves, c'est-à-dire ça se passe comment en cours?
C'est vraiment prendre beaucoup de passages du livre et faire des commentaires composés dessus, étudier vraiment les structures, les temps verbaux, etc., les figures de style, les figures de rhétorique, c'est vraiment tout ce qui a trait à comment c'est écrit. Et, voilà.
Et ça, c'est un rapport à la littérature et à la langue qui te parle, qui te plaît?
Oui, depuis longtemps, oui.
Donc, on se dit au mois prochain?
Ouais.
Vous écoutez notre émission sur France Culture.
Lundi, le surveillant s'est trouvé face à une personne qui tentait d'entrer dans le lycée.
Il a fait le forcing auprès d'un surveillant. D'autres gens du lycée et de l'extérieur sont arrivés et l'ont tabassé.
Pour Scheherazade, qui est en terminale, ce type d'agression est malheureusement courant. Elle y pense chaque matin.
Je viens avec la boule au ventre. Est-ce que quelqu'un va se faire agresser? Est-ce que moi-même je vais me faire agresser? Personnellement, ça fait 4 ans que je suis là, ça fait 4 ans que ça existe. Que ce soit à l'intérieur du lycée, à l'extérieur du lycée, des profs, des CPE, des élèves qui sont agressés. Et puis voilà.
Le lycée Sugère se trouve dans le quartier sensible du Franc-Moisin, mais il attire des élèves de toute la France, comme Axel, 19 ans, venu étudier en BTS audiovisuel.
Rien que les BTS, il y en a déjà 5 ou 6 qui sont fait agresser en un an. Il y en a qui ont dû arrêter les cours à cause de ça. On est tous un peu dans cette situation-là de manque de surveillants, manque de moyens simplement en fait.
Alors les professeurs ont été reçus avant-hier à Bobigny par les services du directeur académique pour demander des renforts pour les 1300 élèves. Aurélie Gigot enseigne l'anglais.
Ce surveillant était seul à la grille parce que nous manquons d'effectifs. Il n'aurait pas dû l'être. On a l'équivalent de 9 temps complets de surveillants. Il nous faudrait donc 12 postes et demi pour pouvoir être à la moyenne nationale.
Pour le moment, le rectorat de l'Académie de Créteil examine ces chiffres. Il a lancé en urgence un diagnostic de sécurité et les services promettent de répondre rapidement. Sans renfort, les professeurs promettent, eux, de poursuivre la grève.
Alors Marwan, on vient d'entendre un sujet diffusé sur France Bleu il n'y a pas très longtemps à propos du lycée Sugère et de la grève qui a eu lieu au mois de septembre. Il se trouve que tu es parti de cette grève-là à laquelle tu as participé parce que toi tu es encore scolarisé en terminale au lycée Sugère à Saint-Denis pour proposer le deuxième sujet qui nous occupe aujourd'hui. De quoi s'agit-il?
Donc plus généralement après la grève du lycée Sugère, on a réussi à obtenir un poste d'AED et de CPE avec des barrières et des caméras. Et après ce que le rectorat et l'éducation nationale a donné au lycée Sugère, je me suis demandé si tout ce matériel qu'on nous donnait, ces effectifs matériels et manuels, c'était pas une restriction à la liberté dans le fait où on a plus de surveillance sur nos actions.
Et c'est une question que tu n'as pas voulu simplement laisser à l'échelle du lycée Sugère, même si tu auras peut-être l'occasion de revenir sur la manière dont toi tu as senti que c'était une possible privation de liberté, mais c'est une question qui t'a semblé pouvoir se poser à l'échelle de la société. Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'en ce moment, on vit dans une époque plus ou moins sécuritaire, où on a beaucoup plus d'actions qui tentent à nous protéger, d'une certaine manière, plus ou moins via la surveillance. Et du coup, je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester simplement au cas du lycée Sugère, qu'on pouvait étendre ce sujet à la société entière, que ce soit la France, que ce soit les autres pays.
Alors, si on devait résumer la grande question que tu voudrais poser à la fois à l'échelle du lycée Sugère et à la fois à l'échelle de la société, ce serait quoi ?
Est-ce qu'on serait prêt à sacrifier nos libertés pour avoir plus de sécurité ?
Voilà, monsieur Philippe Banditti, c'est vous qu'on a contacté pour traiter cette deuxième grande question soumise par Marwan. Vous êtes maître de conférence. Je vous laisse nous préciser à quelle université ?
À l'École européenne de sciences politiques et sociales de l'Université catholique de Lille.
Donc j'avais une question déjà principalement sur mes sentiments. Est-ce que ma crainte et mon questionnement sur le fait que la sécurité va peut-être entraver notre liberté individuelle, c'est quelque chose qui reflète l'époque dans laquelle on est actuellement.
En tout cas, c'est une question qui traverse notre société depuis de nombreuses années, en tout cas avec la centralité qu'elle a acquise, notamment depuis le 11 septembre 2001. Et c'est à l'évidence une question très ancienne de savoir si, à un moment donné, un gain de sécurité va pas être finalement une restriction, ne fonctionne pas mécaniquement, automatiquement, avec une restriction des libertés. Moi, je pense que c'est une question insondable, qu'on a pas arrêté de poser pour notre époque, pour notre présent immédiat, de manière inlassable. Je dis pas que c'est une question qui n'est pas intéressante et qui n'est pas importante. Je dis simplement qu'on n'arrive pas à y répondre et qu'il faut donc essayer de la travailler autrement, quoi. Trouver un autre point d'entrée que de toujours rentrer sur cette problématique par un équilibre sécurité-liberté, où certains sont très enclins à nous dire, mais il est évident que maintenant il nous faut accepter de restreindre nos libertés pour un gain de sécurité. Là où d'autres, de manière tout à fait légitime, nous disent, mais c'est hors de question. Bref, il y a un statu quo qui témoigne, en tout cas à mon avis, que le problème plus général de la sécurité, de la protection est mal posé. Est très mal posé, et ça se voit plus particulièrement pour les thèmes sur lesquels je me suis un peu plus spécialisé, les questions de terrorisme, d'antiterrorisme, etc. On voit très bien que on ne s'en sort pas, qu'on est pris dans une espèce d'ascension aux extrêmes, sans savoir véritablement jusqu'où va s'arrêter cet affrontement sans fin, et qui prouve donc, selon moi, que le problème au départ est mal posé, quoi.
Alors justement, puisque c'est mal posé, puisque cette formulation elle nous enferme plus qu'elle nous ouvre sur des réflexions, comment est-ce qu'on peut rentrer dans cette question de sécurité, surveillance, lutte antiterroriste avec des questions plus fertiles?
Ah bah alors oui, mais ça vous posez des questions impossibles. comment est-ce qu'on peut y rentrer Bon. Pour l'enseignant que je suis, le chercheur que je suis, en évitant de poser des grandes questions très larges, trop larges pour nous et je crois pour quiconque, qui serait celle de savoir si il faut réduire nos libertés pour avoir plus de sécurité, et essayer de revenir, par exemple, s'intéresser à comment est-ce qu'on fait concrètement la sécurité. Qui fait concrètement la sécurité? Ou est-ce qu'à un moment donné, le faire, la sécurité, empiète possiblement sur des possibilités de se déployer librement, de pouvoir circuler librement, etc. Comment est-ce qu'à un moment donné, le faire, la sécurité, donc qui l'a fait, comment, quelles lois sont adoptées, sont susceptibles de contenir un danger, par exemple d'être c'est de lois qui puissent être par exemple ségrégatives ou stigmatisantes. Bon, bien sûr, là je fais référence à cette question sans cesse débattue récemment du burkini, préalablement du voile. Donc moi je dirais il faut essayer de rentrer par le concret de ce qu'est faire la sécurité et de ce qu'est se sentir en liberté, quoi. Et du coup, je voudrais vous retourner la question. Qu'est-ce que c'est pour vous que de vous sentir en liberté, par exemple?
Me sentir en liberté, ce serait pouvoir faire les actions que je veux sans forcément avoir un jugement venant d'au-dessus sur moi.
Mais ça n'existe pas. On fait jamais ce qu'on veut. On fait toujours des choses sous l'effet d'un certain nombre d'injonctions qu'éventuellement on s'est appropriées, si bien qu'il n'y a plus personne pour nous dire de faire ceci ou cela. On le fait de manière absolument automatique parce qu'on a été bien éduqué à l'école. Hein, d'où l'importance précisément par rapport à la discussion précédente, effectivement, d'avoir des interventions, pas simplement pour apprendre le code de la route, mais précisément pour apprendre à ne pas porter un regard déplacé, lourd, sur une jeune femme dans la rue, quoi. Donc on est toujours sous, c'est toujours liberté sous un certain régime de contraintes, et la question est de savoir à quel point soi-même on s'approprie ce régime de contraintes pour s'en faire le relais, quoi.
Du coup, il ne faudrait pas penser de nouvelles manières de sécurité qui puissent non restreindre nos libertés, mais les étendre encore plus qu'elles ne le sont actuellement.
Oui, mais là, c'est une question philosophique, moi, je sais pas.
Ah, mais ça, c'est Marouane. Ça, vous pensez que vous allez parler concrètement, mais non. Il va tout de suite vous emmener sur un terrain comme ça.
Ouais. Peut-être rentrer un peu plus, du coup, sur le concret.
Oui, sur le
concret. Des choses qui étaient allégales ou légales qui sont devenues illégales suite à certains événements en septembre ou le 13 novembre.
Est-ce que ça existe, si c'est le sens de ta question?
Oui, est-ce que des mesures ont été prises pour augmenter la sécurité en empiétant sur la liberté?
Non, mais si on conçoit la liberté comme étant la liberté, enfin la possibilité de, par exemple, de circuler sans entrave faite au mouvement, alors on pourra dire que la multiplication des points de contrôle pour entrer à Radio France en bas, hein, par exemple, je ne sais pas depuis quand c'est là, mais sont une entrave à la liberté. On pourrait tout à fait considérer ça si on considère qu'effectivement la liberté c'est la possibilité de circuler absolument, quoi, et sans entrave, quoi. Donc de ce point de vue-là, oui, une multitude d'actions ont été prises et qui enfreignent la liberté. La liberté de se réunir aussi. On est quand même sous un état d'urgence permanent qui lui-même venait s'ajouter à tout un ensemble de dispositifs déjà existants et déjà en place qui limitent la liberté de pouvoir se réunir. Bon, et en même temps, on a bien vu que Nuit Debout pouvait se réunir en plein état d'urgence, et tant mieux, hein, moi, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Hein. Mais donc oui, des mesures ont été prises et qui enfreignent les libertés individuelles, à n'en pas douter, a fortiori si on considère la liberté comme étant la possibilité de se réunir et de se...
Tu peux peut-être orienter ta question autour des libertés fondamentales, tu vois. Enfin, il y a quand même les libertés, c'est pas juste la liberté comme ça, quoi. Il y a quand même, c'est pas une déclaration de ce que c'est que les droits de l'homme, tu vois. Il y a des choses qui sont écrites sur ça, qui disent ce que c'est qu'on parle de concret. Bon, c'est très concret, quoi. Là, la Cour européenne des droits de l'homme, elle commence à dire que ça déconne un peu nos histoires, quoi. Donc oui, il y a des entraves à la liberté.
Oui, voilà, il y a des entraves à la liberté régulièrement, et il ne fait pas de doute que...
Tu vois, c'est pas juste... se réunir, c'est considéré comme un droit fondamental. C'est pas que c'est une liberté fondamentale. Enfin, je sais pas si ça peut peut-être t'aider dans ta question.
Non, mais bien sûr. Et d'ailleurs, moi, je me disais, quand tu parlais de manière d'être regardé de haut, physiquement, j'avais l'impression que tu pouvais désigner, par exemple, des caméras de surveillance. Puis tu as commencé par dire, au lycée Sugère, la réponse à notre problème, à notre grève, à notre sentiment légitime d'insécurité,
c'était les caméras.
De mettre des caméras de surveillance. Ouais. Alors, bien sûr, vous avez dit ici, on en a marre de répondre aux questions, on veut en poser, mais quand même, on va t'en poser. Est-ce que le fait d'être filmé, toi, tu as la sensation que ça entrave ta liberté? Et si oui, pourquoi? Et c'est important peut-être de préciser justement ces sentiments-là.
Bah, y a un sentiment d'oppression. C'est-à-dire que la caméra, quand elle va voir une action, déjà, elle ne va pas agir directement sur la chose, mais c'est surtout qu'elle ne sait pas la situation dans laquelle la chose s'est passée. Par exemple, une dispute, ça peut être très bien entre deux amis ou deux personnes qui sont complètement inconnues. Donc, entre deux amis, ça va beaucoup moins être enclin à partir dans des violences, alors qu'entre deux personnes qui ne se connaissent pas, on va avoir beaucoup plus de chances de voir une agression.
Donc toi, c'est le non-discernement de la machine qui...
C'est le non-discernement de la machine. Ce qui me fait peur, c'est que la machine ne sait pas reconnaître les émotions humaines, les liens qui unissent les gens. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que au lieu de vouloir comprendre et d'encadrer la personne, on essaye de la restreindre.
Est-ce que vous diriez, Philippe Blantiti, que sur ces questions-là, qui sont en effet très larges, très insolubles, très grandes et très philosophiques, hein, puisque en effet ça nous emmène vers ces terrains-là, la lutte, ce qu'on appelle la lutte antiterroriste, et tout ça prenant des guillemets à chaque fois, oriente ces temps-ci des décisions gouvernementales et des façons de redéfinir notre sécurité, de redéfinir ce que c'est que la surveillance, de redéfinir l'endroit où l'on est bien, où c'est possible, où c'est impossible. Est-ce que ça joue justement ce climat terroriste et antiterroriste?
Ah bah ça fait plus que jouer, puisque l'antiterrorisme, c'est la modalité par laquelle on transforme le faire la sécurité. Donc c'est bien plus que orienté, c'est ce par quoi les États modernes, bon voilà, la France, les États-Unis, l'Iran, n'importe quel État moderne, je crois que l'État tel qu'il s'est universalisé, en tout cas, c'est ce par quoi ils transforment la façon dont leurs appareils de sécurité, les polices, les militaires, le service de renseignement, ont été organisés à l'époque qu'on va dire moderne. Donc cette époque que l'on distingue par l'existence précisément des États, Les États n'ont pas toujours existé, quoi. Hein, bon, on ne va pas faire ici un cours de théorie politique ou d'histoire, mais les sociétés humaines n'ont pas toujours cohabité dans la forme particulière d'État qu'on peut représenter sur une carte, quoi. Et donc, avec l'émergence des États modernes, il y a eu progressivement l'élaboration d'appareils de sécurité et de défense, justement, avec cette division sécurité-défense, bien précise, avec une distinction entre les polices, les militaires, les polices qui interviennent sur le territoire national pour lutter contre les entreprises criminelles, etc. Les militaires qui sont, eux, mandatés à faire la guerre et plutôt prévus pour se déployer à l'extérieur. Bon, alors, il y a des cas particuliers, il y a Vigipirate, tout ce que vous voudrez, bien sûr. Mais enfin, voilà les grandes règles générales. Et l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, c'est, en gros, ce qui permet aux appareils de se transformer et, en fait, de se dédifférencier, quoi. Hein, de faire que... prenez l'exemple de l'intervention qui a eu lieu, je crois, le 18 novembre, juste après les attentats du Bataclan à Saint-Denis. Bon, c'est presque un petit peu caricatural de ces transformations. J'ai envie de dire, vous aviez des militaires qui sécurisaient l'espace, hein, qui finalement s'assuraient que personne ne pénètre dans l'espace d'intervention. Et l'intervention était faite par... des forces de police, finalement, des forces, si je ne me trompe pas, le GIGN, le GIPN, le RAID, bon, je sais plus exactement le détail, il faudrait que je revoie ça, mais enfin, qui sont principalement des forces soit de police, soit de mission de police, et qui intervenaient comme des militaires, tels qu'on peut se les représenter en force d'opération spéciale.
Et ça opère quoi comme glissement? C'est-à-dire, vous dites, finalement, cette lutte antiterroriste, non seulement elle change notre vision, mais elle change aussi les manières opérationnelles de procéder. Ça change quoi? Ça a quoi comme effet?
Ça change que les polices se militarisent et que, finalement, les militaires se policiarisent aussi quand on les envoie, par exemple, dans des missions de construction de la paix, de maintien de la paix à l'étranger, où ils font davantage, finalement, des missions de police au sens de maintien de l'ordre, etc., plutôt que du faire la guerre, comme on se l'est représenté, à travers des affrontements militaires, des batailles, etc., quoi. Qui font qu'un certain nombre de militaires ne veulent pas du tout faire ça, parce qu'ils disent que ça les éloigne de leur métier traditionnel, et à l'inverse, que, bon, voilà, la question des polices qui se militarisent. Alors ici, j'ai cité GIGN, GIPN, mais vous prenez les États-Unis, il y a ce qu'on appelle les SWAT teams, vous prenez le Brésil, il y a le BOPI, Batalhão de Operações Especiais, ce sont finalement des forces qui interviennent pour, en quelque sorte, alors en tout cas en interne, sur le sol national, hein, et puis qui ont des missions de police, hein, qui ne sont pas là pour faire la guerre, on ne fait pas la guerre en interne. Mais si en même temps, ceux qui ont des missions de police... voient leur modalité d'intervention se militariser, est-ce qu'on n'est pas en train de déployer le schéma de la guerre
à l'intérieur
sur le sol
même.
National quoi. Mmh. Bon, et ce qui est d'ailleurs ce que nous dit notre gouvernement.
Que nous sommes en guerre.
Que nous sommes en guerre, que la menace se militarise et que donc la réponse doit se militariser, sans voir même qu'on est en train d'être pris dans un mouvement absolument mimétique où en fait on devient comme ce contre quoi on lutte, quoi.
Philippe Blanditti évoque à l'instant l'intervention du 18 novembre 2015 à Saint-Denis. Jody, est-ce que tu peux essayer de décrire ce qui entourait ou la manière dont le lycée était entouré à ce moment-là très précis entre le 13 novembre et on va dire le 20 ou le 25 novembre 2015 à Saint-Denis?
Après ces événements, au lycée Sugère, où j'étudiais, tous les matins, mais seulement le matin, et je me suis toujours demandé pourquoi, il y avait à chaque angle de rue un militaire. Donc c'est-à-dire en tout, il y en avait 5, mais qui marchaient en fait. Enfin, ils nous surveillaient, quoi, l'entrée. Dès que la sonnerie 8h avait sonné, il n'y avait plus personne. Et je me suis souvent demandé... pourquoi ils sont là le matin et pas le reste de la journée? Ou ben, on nous attaque le matin, pas le soir, je sais pas. Pourquoi en fait ils étaient là? Pour nous protéger au cas où quelque chose arrive, oui, mais pour moi, un militaire, je sais pas comment expliquer, mais il avait pas à être devant un lycée en fait. Je sais pas.
Toi, tu voyais ça comme une présence incongrue, quoi. C'était étrange pour toi.
Et je me sentais en sécurité puisque c'est un militaire en face de moi en tenue avec son arme et tout, mais je trouvais que c'était beaucoup en fait. C'est. 5 militaires devant le lycée le matin comme ça quand t'arrives, ouais, c'est comme si on était en guerre, enfin je sais pas.
Ça c'était à Saint-Denis, par exemple vous étiez scolarisés, vous l'êtes encore Léa et Jérômine au lycée Jacques Decour à Paris, vous avez aussi eu des militaires qui surveillaient l'entrée de votre lycée l'année dernière?
C'est arrivé quelques fois et ça arrive encore aujourd'hui, mais c'est plus des patrouilles dans le secteur du 18e arrondissement que des militaires postés devant
notre lycée.
Et justement, sur ce rapport d'incongruité, à savoir, est-ce que ce sont des militaires qui ont à être là? Est-ce que c'est une façon de basculer dans le champ de la guerre? Vous voyez ça comment, quand vous voyez ces hommes-là?
Bah, c'est rassurant, mais pas très rassurant non plus. Enfin, parce que on voit des militaires, on se dit, ah, c'est la guerre, mais on voit des militaires, on se dit, ah, et c'est bon, on est en sécurité. Mais c'est vrai, ça fait bizarre, le matin, des fois, ils sont là, et des fois, ils sont pas là.
Bah ouais.
Donc, voir un militaire, ça me fait personnellement plus peur que me mettre en sécurité, parce que quand je vois un militaire, je me dis, ah merde, c'est la guerre. C'est-à-dire qu'à tout moment, bah, il y a un gars, il va arriver, il va m'éclater le crâne, quoi. Et je veux pas me sentir en sécurité quand j'ai une présence policière armée, qui me dit, t'inquiète, on va te protéger si un gars, si un fou furieux arrive et veut te coller une balle dans la tête.
En fait, ça fait l'inverse, ça produit l'inverse.
Pour moi, c'est l'effet totalement inverse.
Mais au final, si ces militaires avaient été là le jour de l'agression du surveillant à Sugère, bah, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Donc, comme quoi, ils peuvent quand même assurer une sécurité.
Là, c'est autre chose. Là, on parle de manque d'effectifs au sein du lycée Sugère, mais oui. S'il y avait eu ces militaires, il n'y aurait pas eu cette agression. Ils n'étaient pas là, donc ça ne s'est pas passé comme ça.
Et pour autant, est-ce que c'est une réponse qui te paraîtrait appropriée, puisque tu es partie de la question de justement cette agression au lycée Sugère, ça te paraîtrait approprié de répondre à cette agression par une présence militaire?
Non, non.
Comment tu parles, on voit bien que les caméras que l'État vous a procurées, enfin, c'est pas ce que vous vouliez, en fait. C'est vrai qu'une caméra ne te protège pas, elle voit les faits, mais te protège pas. Mais quand, par exemple, il y a des personnes qui sont là pour te protéger, t'es pas rassuré non plus. Donc, enfin, en gros, qu'est-ce que tu veux, en fait?
Mais peut-être juste parce qu'en effet, on rentre aussi et puis le temps passe dans des questions qui peuvent devenir insolubles. Simplement, moi, en écoutant tous ces jeunes gens qui n'ont pas 20 ans, Faye Bonditi, je me dis, personnellement, moi qui en ai quelques années de plus, je n'ai pas vécu avec des militaires, ni devant mon lycée, ni devant mon collège, ni devant mon école. Dans quelle mesure est-ce que cela change leur rapport à l'espace public, leur rapport à la force militaire, leur rapport à la force policière, leur rapport à l'État?
Et à la virilité.
Et la virilité rajoute à dessein Héloïse Duchesne.
Alors la virilité, rien du tout, sinon c'est que ça va la renforcer. Puisqu'on sait bien que c'est les hommes qui vont à la guerre, voyez quand même. Bon non, je ne peux pas répondre entièrement à toute cette question. En tout cas, il est certain, et ça effectivement, ça me paraît essentiel, que ce soit le déploiement de forces militaires. Donc avec l'uniforme militaire, avec l'armement qui va avec. Que ça soit le déploiement, donc ici en distinction de simplement des patrouilles de police. Que ça soit l'installation d'un nombre de plus en plus important de caméras de vidéosurveillance, par exemple. Que ça soit l'accumulation des checkpoints, des points de contrôle, ou que ce soit. Il est évident que ça transforme complètement la façon dont on se subjective, disons, dont on va se construire soi-même. Et donc, pour répondre très directement à votre question, il est inéluctable qu'effectivement, les enfants qui sortent de l'école, dans le 9e, mon gamin est dans le 9e, moi, donc pas très loin du lycée de cours, du collège de cours, quand ils sortent, ils voient immédiatement des militaires. Donc ça ne peut pas ne pas intégrer, ne pas jouer dans la façon dont ils se construisent. Et j'ajoute à ça que, encore, on revient toujours sur cette question de ce qui est fait à l'école. Il a été décidé, alors je ne sais pas comment est-ce qu'on a pu décider une bêtise pareille, mais que les enfants devaient être entraînés. Alors au lycée, je peux comprendre, éventuellement au collège, il peut y avoir une discussion, mais en primaire... Hein, en CP, mon fils en CP, on va lui apprendre à se cacher pour qu'il puisse être en quelque sorte conditionné dans l'éventualité d'une prise d'otage ou d'un attentat sur une école. Donc il est bien évident que ce sont des éléments qui vont pleinement intégrer la façon dont on se construit. Comme quoi ? On se construit comme des sujets absolument vulnérables.
Vous écoutez notre émission sur France Culture.
Et comme promis, on te retrouve, Nafissa Tou, pour parler de musique. Tu as choisi deux morceaux pour évoquer deux artistes. Est-ce que le choix a été difficile?
Non, le choix n'a pas été difficile du tout. C'est des artistes que j'écoute souvent depuis un moment, là, donc non, ça n'a pas été vraiment très difficile.
Quand tu dis souvent, c'est-à-dire?
C'est-à-dire le matin, le soir, l'après-midi, n'importe quand en fait.
Alors tu décides de nous parler de quel artiste pour commencer?
Pour commencer, je vais vous parler de Jace Boskin-Stree. Bah, en fait, sa musique s'appelle Restless Dreamer. Il a 31 ans et il fait plus de la soul en fait, et c'est un musicien indépendant en fait.
Et alors, c'est un morceau que tu décrirais comment, peut-être, pour essayer de mettre des mots avant de dire pourquoi ça te plaît ?
Bah, c'est un morceau inspirant.
Super restless and I can't take it. And when I close my eyes I see her naked. I can't battle with what I've built up. I can't slumber without her. There's love. Never a time I don't want ya. But baby I need you right now. Could be the heat or this fever. I need you to cool me down. Drowning in thoughts of her passion. Her kiss could cure my weak heart. Gliding towards her apex. I know she'll put me side in the sweet. I'm super, super restless and I can't take it. When I close my eyes I see you naked. I can't battle with what I've built up. I can't slumber without you.
There's never a night where you. T'es prête à danser, ma fille Fatou? Quelle voix! Incroyable, cette voix!
Ah!
Alors, tu nous redis peut-être le nom de cet artiste?
Jess Boykins III.
Il a 31 ans, tu l'as dit tout
il
à l'heure. C'est un Américain.
C'est un Américain. Il vient de Chicago, dans l'Illinois. Il est né là-bas. Il a fait plusieurs albums, en fait, mais cette musique, elle ne fait pas partie d'un album du tout. Il l'a composée et dès lors de sa composition, bah, en fait, il l'a directement chantée, il l'a enregistrée. Du coup, elle est sortie, mais c'est une musique toute seule. Elle ne fait pas partie de plusieurs de ses albums qu'il a. Donc, en fait, il en a peut-être 5-6. Et dans tous ses albums, en fait, les musiques, elles se suivent. Elles ont, enfin, le titre de la musique, il suit des autres musiques. Du coup, ça fait genre une longue phrase. Et celle-là, je l'écoute beaucoup. Il y a aussi une autre qui s'appelle Show Me Who You Are. Et en fait, cette musique, elle est un peu comme celle-là, sauf que les basses, elles sont un peu plus fortes, elles tapent un peu plus. C'est plus fort, mais c'est en même temps encore plus calme. Je ne saurais pas comment expliquer, mais il faut vraiment l'écouter en fait, pour comprendre comment elle est, comment elle se joue, qu'est-ce qu'elle veut dire. Juste par les basses, en fait, on comprend très bien ce qu'il veut dire, même si on ne comprend pas les paroles.
Et alors là, pour ce morceau-là, il y a la voix qui est très, très présente. Qu'est-ce qui te touche, toi, dans ce morceau-là?
C'est surtout en fait, le bruit de fond en fait, qui me touche. Moi, c'est plus l'instrumental qui me touche que ce qu'il dit. À part à la partie qui joue dans la musique, là, il y a une certaine partie qui me touche plus que tout le reste de la musique. Et c'est que ce moment-là où il parle en fait, qui me touche plus. Enfin, le début, la fin, ça ne m'intéresse pas plus que ça, mais... L'instrumental, en fait, je trouve que c'est vraiment ce qui fait la musique. On l'aurait chanté a cappella, elle n'aurait pas du tout le même rendu, en fait.
Comment est-ce que tu décrirais l'instrumental? Quand tu dis l'instrumental, c'est ce qu'on est en train d'écouter et qui est en dessous, ou c'est un passage très précis de ce morceau?
L'instrumental, c'est tout ce qui est en dessous. Et le passage le plus intéressant, il est un peu à la fin et un peu au milieu. Et du coup, c'est le passage le plus important pour moi dans la musique.
Est-ce que tu saurais de décrire ce que ça te fait à toi quand tu l'écoutes?
Déjà, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de m'envoler, j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de faire que des bonnes actions, j'ai envie de devenir quelqu'un d'autre. En fait, j'ai envie que mon âme sorte de mon corps et danse avec moi. J'ai envie de faire plein de choses quand j'écoute cette musique. Je suis loin, je suis vraiment loin en fait. On peut pas me ramener sur pied tant que la musique elle est pas finie.
Et en même temps, tu dis que t'écoutes en ce moment énormément cette chanson. Ça veut dire que t'es très très souvent loin en ce moment?
Ah, je suis très très souvent loin. Enfin, depuis que j'ai commencé la fac, je suis dans un autre monde. Je suis toute seule. Je suis juste accompagnée de cette musique, mais je suis vraiment dans un autre monde.
Mais
vraiment.
Est-ce que tu dirais du coup, parce que quand tu dis que t'es toute seule, ça veut dire que c'est une musique qui est près de toi comme un compagnon, comme une amie?
Oui. C'est pour moi, c'est comme une motivation. En fait, on a tous une ambition. On a tous un fil et au bout de ce fil, il y a un point. Et ben moi, en fait, cette musique, c'est non seulement mon point et non seulement mon fil. Je vais dire que l'instrumental, derrière, c'est le fil. Et le passage de la musique que j'aime, c'est le point.
Et là, tu n'as pas écouté le morceau toute seule. Tu es avec nous tous, on est en studio. Ça veut dire que c'est quand même possible de partir quand tu as fermé les yeux et que tu as claqué des doigts. C'est
vous
quand
étiez,
même possible.
Quand j'ai écouté, vous n'étiez vraiment pas là. Je pouvais l'écouter là en boucle et je vous aurais vraiment ignoré.
C'est une musique que tu as découvert par un autre artiste,
oui.
qui t'a emmené presque sur la piste de ce premier morceau qu'on vient d'écouter. Mmh. De quel artiste s'agit-il ?
Il s'agit de André 3000. Alors, c'est un rappeur, c'est un producteur, mais en fait, il n'est pas tout seul. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle Outcast. Ils sont deux. Lui, c'est le rappeur et son coéquipier, c'est le chanteur. Sauf que lui, il n'est pas très connu. Et du coup, c'est André 3000 qui a composé cette musique et qui l'a chantée. Enfin, qui l'a rappée. Et Prototype, elle fait partie de son deuxième album qui s'appelle The Love Below.
Alors, on écoute Prototype ?
Oui.
Mixtrap.com.
What's wrong? What are you afraid of? The love below.
She stays alone. Never sheds a single tear. She stays in the coolest moods. Clearly, a woman of the year. She and all her girlfriends, they go out dressed to win. She comes back to the cooler side of town.
Nafissa Touche, je te laisse nous dire ce qu'on écoute, nous redire peut-être.
Alors on écoute Prototype de André 3000.
Dans l'album qui s'appelle
The Love Below.
Alors tout à l'heure tu disais que le premier morceau que tu nous as fait découvrir c'était vraiment comme un compagnon qui t'emmenait loin. Là on est sur une autre musique tout de même, on est d'ailleurs sur un autre style de musique. Mmh. C'est une musique qui te fait quoi ?
Alors cette musique elle me fait... En fait, c'est un peu toujours la même chose, sauf que c'est pas celle-là, elle est moins intense, mais elle m'emmène quand même n'importe où, comme toutes les musiques que j'écoute. Mais cette musique, c'est plus... comment dire ? C'est plus une musique qui me redonne le sourire quand je suis pas bien, on va dire. Enfin, c'est toujours en fait la musique pour me relever, pour que je me rappelle qu'il faut pas que... Enfin, qu'il y a beaucoup de choses auxquelles je dois pas abandonner ou des choses comme ça, mais... Voilà, c'est plutôt une musique comme ça, en fait. C'est pas la musique qui va m'emmener, qui va faire mon âme danser, mais c'est plutôt la musique qui va jamais me faire tomber, en fait, qui va toujours me forcer à me relever, quoi qu'il en soit, en fait.
C'est un morceau qui date de quand ?
Alors, la musique, elle a été composée en 2003, mais elle est sortie en 2004.
Donc, c'est un morceau qui a déjà 12 ans. Tu l'as découvert en 2004 à ce moment-là ou
Non, je l'ai découvert en 2010. J'ai découvert en 2010, mais je ne l'écoutais pas vraiment. Et j'ai commencé à l'écouter là, récemment, depuis peut-être 2 ans. Voilà.
Merci beaucoup Nafissa Touche, on finit d'écouter ça. Et ben voilà, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir été ici, d'avoir pensé cette émission et de l'avoir animée. Merci Marouane, merci Léa, merci Jérômine, merci Hicham et merci Jodie.
Merci à Héloïse Duché et à Philippe Bonditi d'avoir été avec nous pour la première de notre émission. Au revoir.
Et au mois prochain ?
Ouais, au mois prochain.
Leur émission est donc terminée pour aujourd'hui, mais on peut se retrouver sur franceculture.fr, Twitter et Facebook pour continuer d'échanger et continuer de dialoguer. Un grand merci à Romain Debecq de Lièvre, à Inès Duperron, à Alice Ramon qui pense et prépare cette émission avec moi et avec eux, à Véronique Villa qui la réalise. Aujourd'hui aux manettes, c'était Alain Joubert. Dans un instant, vous retrouvez Manou Farine et la poésie. On se retrouve avec eux dans un mois et sinon, à lundi, même heure, même chaîne.
Thank you.